En juillet 1984, à la veille du premier anniversaire de la Révolution, le dirigeant de ce qui deviendra quelques jours plus tard le Burkina Faso accorde une interview au cinéaste René Vautier, alors en tournage pour la télévision algérienne. Cet échange entre deux figures du combat pour l'émancipation des peuples était tombé dans l'oubli. Afrique 21 le ressuscite alors que s'est ouvert, le 11 octobre, le procès des assassins de Thomas Sankara et de 12 de ses camarades.
Afrique 21, le podcast. Thomas Sankara, l'interview perdue de René Vautier. Partie 1, l'émancipation des femmes, la domination occidentale des médias et de la culture. Introduction lue par Jean Stern.
La Haute Volta allait bientôt changer de nom et prendre celui de Burkina Faso. En ce mois de juillet 1984, Ouagadougou se prépare à fêter le premier anniversaire de la révolution du 4 août et à recevoir plusieurs délégations internationales. Sankara pouvait discourir pendant des heures sur les pesanteurs des traditions et, comme on l'entend longuement plus loin, sur la condition d'infériorité de la femme sans jamais tomber dans le travers de l'intellectuel donneur de leçons. Des mesures de portée symbolique et pas toujours bien reçues avaient été adoptées dans le but d'inculquer le principe d'égalité entre les sexes, notamment au sein des couples. Sankara avait notamment décrété qu'une matinée par semaine, le personnel masculin de la fonction publique se rendrait au marché pour effectuer les courses hebdomadaires du foyer en lieu et place de leurs épouses. Moins anecdotique, la campagne contre l'excision dont Sankara fournit ici les véritables raisons a porté ses fruits. Le Burkina Faso, le nouveau nom de la Haute Volta à partir du 4 août 1984, a été un des premiers pays de la région à rendre cette pratique illégale. Quant à la seule femme membre du gouvernement à laquelle Sankara fait référence dans l'enregistrement, Rita Sawadogo, 26 ans à l'époque, ses premiers contacts avec la population avaient d'ailleurs été très problématiques. Plus tard, d'autres femmes seront appelées à de telles responsabilités. À partir de septembre 1984, Joséphine Ouédraogo assume ainsi la fonction de ministre de l'essor familial et de la solidarité. Jusqu'au coup d'État du 15 octobre 1987, elle met la défense des droits des femmes au cœur de son action. La révolution ne cesse de rappeler Sankara dans cette interview, est un processus de longue haleine et en constante transformation.
Les femmes portent la moitié du ciel. Ces femmes-là ne peuvent pas être tenues à l'écart de notre révolution. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui vise à les libérer. Mais c'est très compliqué, c'est très difficile. Parce que les femmes sont dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Elles sont doublement dominées. Si vous allez dans mon village et vous dites à une femme « Bon, écoute, tu as le droit de prendre la parole, toi aussi de donner ton point de vue dans le débat qui se déroule devant les hommes », elle vous dira « Quel scandale !» Non, elle préfère être dans la position de femme soumise, c'est comme ça. Sa mère, sa grand-mère, elle a connu la société de cette façon-là, elle préfère cela. C'est tout un vertige. Elle ne saura où aller si jamais du jour au lendemain on lui disait « Toi aussi tu as la possibilité ». Elles ont peur de la liberté. Parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont en faire. Que deviendrait le monde avec les femmes libres? Et nous-mêmes, nous les hommes, nous aussi, nous avons peur de cette liberté. Même si théoriquement, et c'est là aussi une des réalités, même si théoriquement nous l'acceptons. Parce qu'une des réalités de la petite bourgeoisie, c'est qu'elle sait ce qu'il faut faire. Mais elle ne veut pas le faire. Nous savons que la femme doit être libre, mais nous avons peur de cela. Et beaucoup d'hommes disent ici, de manière très amusante, que oui, nous sommes pour la liberté de la femme, mais la liberté de la femme du voisin, pas la liberté de ma femme. Bon. C'est un combat qui se mène, qui s'instaure même dans les foyers. J'avoue, je dois avouer que ce n'est pas très agréable pour tous. Je dois avouer que chacun de nous ressort de ce combat en se disant « Mais quand est-ce qu'on va arrêter cette folie ?» Et si jamais Sankara pouvait prononcer un discours contraire. D'ailleurs, ceux qui le disent ils n'ont jamais demandé à Sankara si lui-même n'est pas d'aventure du bord de ceux qui estime que ça commence à bien faire. Hein? Bon, mais c'est la réalité. Il faut que les femmes soient libres, il faut qu'elles soient libérées. Et progressivement. Mais que ce ne soit pas le folklore, les femmes rassemblées pour applaudir en uniforme, pour acclamer, vive ceci et vive cela. Non, ça c'est une autre forme de libération qui ressemble beaucoup plus à la domination et à une organisation massive, mais alors une caporalisation de la femme pour autre chose. Non, ce n'est pas de cela qu'il
s'agit. Vous pourriez alors donner une signification concrète à cette liberté qui souvent a été déformée et mystifiée même en Europe.
C'est le droit pour la femme de participer à définir la vie collective avec l'homme. C'est-à-dire que la femme ne doit pas être conçue comme un complément. Quand les hommes ont fini, on laisse à la femme le droit de dire son mot pour les questions subsidiaires. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de comprendre que la femme est l'égale de l'homme. C'est très difficile à accepter. J'avoue que c'est très difficile à l'accepter. Mais la femme est réellement l'égale de l'homme et peut faire tout ce que fait l'homme. Même si elle a des possibilités et une sensibilité que l'homme n'a pas, et qu'en retour, l'homme a des possibilités et des sensibilités que la femme n'a pas. C'est très simple. Nous disons que physiquement, la femme peut faire ce que l'homme peut faire. Intellectuellement, nos femmes l'ont prouvé à l'école, partout, dans les universités. Elles peuvent faire ce que nos hommes ont fait. Elles l'ont fait. Elles ont les mêmes diplômes, etc. La femme voltaïque se lève à 4h30 du matin. Sa journée commence à 4h, 4h30. Et sa journée finit vers les 23h, minuit. À chercher du bois, de l'eau, à faire la cuisine, à laver les enfants, à faire ceci, à nettoyer, à balayer la maison. Alors, l'homme, pendant ce temps, se repose. Quand la femme va au champ avec l'homme, elle cultive dans le même champ que l'homme. En fait, l'homme, c'est le contremaître. Dans le champ, qui regarde ses femmes, c'est-à-dire ses ouvrières, travailler. Il regarde ses ouvrières travailler. Et à la fin du travail qui est dû au maître, la femme va encore dans son propre champ à elle, puisqu'elle est généralement femme à côté d'autres coépouses et il lui faut avoir un petit revenu à elle pour pouvoir mieux nourrir ses propres enfants. Alors, c'est donc dire que si physiquement la femme peut le faire, et si l'homme éprouve le besoin d'aller se reposer sous les arbres, à l'ombre des arbres, c'est que la femme physiquement a les capacités. Et nous disons que en haltérophilie, on peut trouver également des femmes qui soulèvent les mêmes quintos que les hommes. Il suffit de les entraîner dès le départ et surtout de ne pas dire à la femme dès l'enfance qu'elle est inférieure. Voilà, toi, fille, tu es inférieure à ton frère. Or, l'éducation, toute la mentalité chez nous en Volta est faite de telle sorte que parce que vous êtes un garçon, même si vous êtes le dernier des garçons, vous êtes au moins le premier parmi les femmes. Ça, au moins, vous êtes le premier. C'est comme ça. Et cela va jusqu'à des marques physiques pour que la femme porte sur elle l'empreinte de son infériorité permanente. L'excision, c'est quoi? C'est la traduction aussi d'une certaine volonté de marquer la femme de son infériorité. Et la femme est inférieure à l'homme. On le lui rappellera qu'elle n'a pas le droit d'avoir le plaisir qu'elle veut parce que, bon, et il faut exactement comme c'est la ceinture de chasteté que d'autres employaient en d'autres temps. On n'a jamais vu de ceinture de chasteté pour les hommes. Pourquoi? Alors, voilà déjà les rapports sociaux entre nous, même voltaïques, des rapports sociaux qui doivent être brisés et transformés. Et ce n'est que si ces rapports sociaux étaient transformés, brisés et transformés que nous pourrions faire participer la femme à la lutte contre l'impérialisme qui est un autre problème. Mais nous ne le voulons pas et ce n'est pas facile de l'accepter aussi, de dire à la femme, tu es l'égal de l'homme à côté. Dans notre gouvernement, nous n'avons qu'une femme. Mais nous savons que plus tard, nous aurons plusieurs femmes dans notre gouvernement. Parce que aussi, ce n'est pas parce qu'il y a eu le 4 août que instinctivement et automatiquement les femmes sont devenues libres et consciemment libres. Non, elles sont pour l'instant utopiquement et euphoriquement libres, mais elles ne le sont pas encore de manière consciente. La preuve, c'est que quand vous appelez une femme, vous dites, bon, écoutez, camarade, vous êtes responsable de ceci et cela à partir d'aujourd'hui. Vous êtes nommée la responsable de tel service. Merci, elle fait un bon discours qui vous dit qu'elle est... Mais elle prend les dossiers, elle file voir son mari, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Qu'est-ce que je fais? Ou bien, il y a encore des expressions qui trahissent l'inféodation des femmes, l'inféodation inconsciente des femmes. Lorsque lorsque je rassemble parfois les femmes, je leur dis, écoutez, vous devriez désigner parmi vous une de vos camarades pour siéger à telle ou telle instance, etc., nous causons. Elles vont dire, bon, alors, camarade président, donnez-nous le temps d'aller voir. Elles vont réfléchir, elles reviennent. Nous vous proposons une telle. Je dis, ah, vous pensez qu'elle pourra? Ah oui, celle-là, elle parle comme un homme. Ah bon?
Amen.
Autant pour moi aller chercher directement des hommes. Autant aller chercher des hommes, puisque vous avez trouvé en vous celle qui se rapproche le plus des hommes. Elle parle comme un homme. Alors, camarade, ça ne va pas.
Sur le plan des médias, depuis que vous êtes président, est-ce que vous vous êtes rendu compte aussi que les médias, que l'Occident tenait encore en main pratiquement tous les moyens d'expression, même pour les chefs d'État africains?
Eh oui, je ne connaissais pas jusqu'à ce point-là, en tout cas, la puissance de l'information, enfin des médias en général. Et depuis le 4 août, nous avons pu nous apercevoir, j'ai pu en tout cas personnellement le noter, comment il est possible de fabriquer de toutes pièces des hommes, des images, mais alors de toutes pièces, des images positives, des images négatives. Et quand on sait aussi que les faiseurs d'opinion, les faiseurs d'images de marque ou les défaiseurs d'images de marque sont eux-mêmes tenus en laisse par ceux qui ont les financements, ben, nous voyons que le combat que nous menons revient encore à un combat anti-impérialiste, une lutte anti-impérialiste. Il faut libérer l'information et permettre à l'information de dire ce qu'il y a à dire, de dire la vérité, une vérité par une critique positive et constructive. Nous ne demandons pas, bien sûr, que les journalistes se transforment en turiféraires ou que les micros deviennent des espèces d'encensoirs pour nous. Non, nous ne demandons pas cela. Mais nous demandons que les efforts que nous faisons soient présentés. Il y a un pays africain qui a, depuis peut-être 3 ou 4 mois, décidé de créer une espèce de contribution, d'ouvrir des caisses, des fonds alimentés par des contributions volontaires des habitants de son pays pour venir en aide au secours de ceux qui ont été victimes de la sécheresse. Et cela a été célébré dans les journaux et par certaines radios, grandes radios. Nous avons vu la partialité manifeste parce que nous, plusieurs mois avant cet autre pays, et de manière beaucoup plus avancée, nous avons le même système ici, notre caisse de solidarité révolutionnaire, à laquelle contribuent des voltaïques et des non-voltaïques, qui nous a permis de refuser de déclarer la haute volta sinistrée. On nous a même rédigé les textes pour que la haute volta soit déclarée sinistrée, il suffisait de signer simplement. Nous ne l'avons jamais fait, estimant que nous avions des ressources à notre niveau et que nous voulions que les voltaïques apprennent à vivre en voltaïque, apprennent à subir les affres aussi de la famine et donc être obligés à chercher des solutions à ces problèmes qui pourraient revenir car ils reviennent de manière cyclique. Bien. C'est dire que l'information doit être au service de la libération des peuples. Il n'y a pas d'information neutre, il n'y a pas de cinéma neutre et par conséquent, les hommes des médias doivent se demander à quel service ils ont placé leur talent. Au service des peuples, au service des ennemis des peuples. Et c'est pourquoi nous souhaitons que ces caméras qui tournent pour dire 24 fois par seconde la vérité, rien que la vérité.
Vous avez toujours été, quand vous étiez jeune, plus jeune que maintenant, vous avez toujours eu beaucoup d'activités culturelles. Vous vous intéressiez au cinéma, vous jouiez de la musique. Est-ce que vous avez encore le temps maintenant de vous y consacrer? Et d'autre part, est-ce que ces préoccupations-là ne vous semblent pas encore dans les rapports entre le Sud et le Nord, des rapports entachés d'un colonialisme? Est-ce que vous ne ressentez pas le rapport, par exemple, des œuvres voltaïques avec les médias d'Occident comme entaché d'un colonialisme qui devrait être complètement dépassé? Est-ce que la culture vous semble maintenant, entre l'Occident et l'Afrique, égalitaire?
Non, elle ne l'est pas encore. Il n'y a pas ces rapports égalitaires entre ces cultures qui au fond peuvent se compléter mais très harmonieusement si on veut le faire, si on veut faire l'effort. Parce que il y a eu il y a eu des rapports inégaux dès le départ qui ont été largement en faveur de la culture du colonisateur. Nous pensons dans la mentalité du colonisateur pour traduire notre pensée dans la langue, dans les langues de notre pays. C'est d'abord là un problème très important. Aller traduire la révolution dans nos langues, aller traduire la démocratie dans nos langues, c'est des périphrases à n'en plus finir. Cela est très significatif. Ce qui fait que tout ce que nous faisons, qui a eu la chance d'avoir été écrit, d'avoir été dit dans la culture du colonisateur, par exemple la révolution, 1789, la révolution en France, voilà, on sait ce que c'est, eh bien, donne l'impression, et c'est un prolongement de la domination, donne l'impression que même la révolution, même ce que nous voulons faire aujourd'hui, doit être pensé, défini chez le colonisateur. C'est-à-dire que nous pouvons, c'est encore lui qui doit nous... Les canons de la révolution doivent nous être dictés par ceux que nous voulons combattre du point de vue démarche colonialiste. Voyez-vous. Et c'est pourquoi ils se permettent aujourd'hui de dire c'est une hérésie que de faire des TPR, des tribunaux populaires, parce que bon, c'est nous qui vous avons appris le droit, c'est nous qui vous avons formé vos magistrats, donc c'est nous qui vous dirons encore comment vous devez les transformer. Non, votre révolution n'est pas correcte parce que bon, votre réforme agraire n'est pas venue de telle ou telle façon, parce que c'est nous qui vous avons appris ce que c'est que la réforme agraire. C'est encore nous qui vous avons appris ceci, c'est encore dans nos livres que vous avez lus qu'en 1789, nous avons proclamé. Alors, il n'y a pas de rapports égalitaires. Et rien qu'à ce niveau, aujourd'hui encore, nous avons beau dire combattons la domination culturelle que nous impose le néocolonialisme et surtout l'impérialisme. Nous avons beau le dire, nous nous comportons comme tel. Sur le plan économique, même, nous sommes victimes de cela. Il n'y a pas de rapport égalitaire encore. Et nous avons beaucoup de problèmes dans ce domaine. C'est l'un des domaines qui va nous prendre le plus de travail parce que cela demande une transformation des mentalités, une transformation totale des mentalités. Chez nous, rapport culturel, nous estimons que un film signé, pourquoi pas, Vautier, a plus de mérite qu'un film signé Gaston Caboret, même si le film Gaston Caboret dit les réalités terre à terre que connaissent les voltaïques. Mais Vautier, encore que vous n'êtes pas le bon exemple dans ce domaine, parce que vous n'avez pas attaqué notre culture, au contraire, vous l'avez magnifié en d'autres temps, et très courageusement. Mais il y a des grands cinéastes dont j'étais les noms volontairement. Bon, pour ne pas oublier aussi d'autres qui sont tout aussi criminels, il y a des grands cinéastes qui nous ont imposé leur culture. Et cinéma spaghetti, nous l'avons consommé ici, nous le consommons. Et notre peuple est conditionné ainsi. Quand vous dites, quand vous affichez Wang Yu fait ceci, Wang Yu fait cela, bon, karaté, tout le monde est là. Par contre, lorsque vous voulez poser un débat, je ne sais pas moi, la libération de la femme sous forme de film, bon, c'est aride, ça n'attire pas, etc. Et comme en plus, nous faisons notre cinéma dans un balbutiement technologique qui ne nous a pas encore permis de maîtriser le langage cinématographique, c'est vrai, eh bien, le film passe à côté. Pour prendre simplement le cas des films, la musique, c'est tout aussi pareil. Vous savez que nous avons une conception de la musique, nous... Il y a certaines régions ici, notamment chez les Sénoufo, au sud-ouest, à l'ouest du pays, chez les Sénoufo, ils ont une gamme musicale qui n'a pas certaines notes du solfège tel qu'on le connaît en Occident. Et il y a, comment dirais-je, il y a des bémols comme ça qui manquent par-ci, par-là. Mais quand les Européens, et les Européanisés comme nous autres, quand nous écoutons leur musique, nous disons... Ah, arrêtez ce massacre. Parce que nos oreilles ont été tellement habituées à ce que, après le do, vienne le ré, que lorsque il n'y a pas ça, nous sommes choqués. Nous sommes choqués parce qu'il y a cette hiérarchie des notes musicales, voyez-vous. Bon. Nous voulons aujourd'hui définir une identité culturelle voltaïque à partir, c'est une contradiction, à partir d'une culture qui n'est pas voltaïque. Moi, je vais m'adresser à des paysans voltaïques pour leur dire ne faites plus ceci, ne faites plus cela, et me voilà représentant même de la culture, représentant authentique de la culture occidentale. C'est une contradiction. Alors que eux aspirent à être comme moi, et que moi-même j'aspire à vivre comme la rive gauche, la rive droite de la Seine. Voyez-vous ? Bon, c'est une contradiction. Mais il faut aller contre cela. Et heureusement, nous trouvons parfois des voix qui nous comprennent. Qui nous comprennent, qui savent que, en fait, le droit pour les voltaïques de se définir comme tel n'est pas un droit agressif contre d'autres cultures. C'est un droit positif et constructif pour d'autres cultures. Une culture qui peut venir en complément d'une autre culture, en harmonie aussi d'une autre culture. Il y a beaucoup à apprendre ici et il y a beaucoup aussi à apprendre chez les autres. Nous trouvons de plus en plus des échos favorables. Nous souhaitons que ce soit de tels échos qui se développent. Je crois aussi que nous devons utiliser, et c'est ce que je suis en train de vouloir faire, utiliser la musique, la culture en général pour exprimer le langage de la révolution. C'est pourquoi nous sommes en train de monter un orchestre de jeunes enfants, tout petits. Et vous avez la primeur, je peux vous dire que ces enfants s'appelleront les petits chanteurs au point levé. Faut bien, là encore, vous voyez ma démarche de néocoloniser qui tente d'imiter, de recopier les petits chanteurs à la croix de bois. Bon, mais enfin, ce sera pour dire à ces autres petits chanteurs à la croix de bois qui sont devenus de grands adultes, leur dire que nous pouvons ensemble faire quelque chose. Tout comme nous sommes en train de monter un orchestre exclusivement féminin, parce que pour nous, la femme occupe un rôle très important qui n'est pas assez souligné. Un rôle très important. Alors nous voulons que les femmes prennent les guitares, les saxophones, trompettes, clarinettes et autres tambours pour chanter la musique. Eh bien, pourquoi pas? Et elles vont chanter la révolution. Et cela va choquer au départ parce que l'on se dira comment on va appeler les femmes pour cela, pour ceci, pour cela. Mais il n'y a que de cette façon que nous allons sortir les femmes de leur ghetto. Un ghetto dans lequel elles s'enferment sans savoir trop comment.
Traditionnellement, il n'y a pas d'orchestre féminin ou de participation de femmes à la vie instrumentale, à la vie musicale instrumentale en Haute-Volta.
Oui, il y en a très peu d'ailleurs, notamment chez les Mossi, il y en a. Mais l'orchestre moderne est venu ici, c'est l'affaire des hommes. Ce sont les hommes qui prennent les guitares électriques, qui savent. Bon, voilà, l'orchestre moderne, c'est l'affaire des hommes. Et nous voulons que l'orchestre moderne aussi soit l'affaire des femmes, si elles le veulent. Et nous les poussons à cela.
Afrique 21.